Merci Esprit Saint de ta présence au milieu de nous et en nous. Nous te demandons de pouvoir, par l'intercession de Marie, ouvrir vraiment nos cœurs à ta présence. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, bonjour à tous. Donc, ce que Jean-Michel m'a proposé de parler, c'est donc ce qui concerne le rapport à la prière mariale à la communauté. Enfin, comment on se situe, nous, en tant que communauté des Béatitudes, dans la prière mariale. Toutes sortes, hein. En général, je pars. Hein. Alors, tout d'abord, je voulais juste peut-être préciser pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Moi, je suis donc arrivée il y a un certain temps à la communauté. Et j'ai repris un peu une formation, enfin, donc j'ai pas fait d'études, je suis rentrée à 18 ans hein, ici, donc j'ai pas fait des études professionnelles particulières. J'ai juste repris, une dizaine d'années après, j'ai repris un peu des études sur le plan biblique et puis après on m'a lancée sur la théologie. Donc en ce moment je suis en train de je suis en plein dans une thèse de doctorat sur la médiation de Marie, voilà. Ça, c'est un peu ce qui me concerne. Sinon, en fait, je voudrais commencer par un petit témoignage par rapport justement à l'aspect marial dans la communauté, on va dire, plus largement. Hein. À l'âge de 13 ans, moi je suis belge, hein, donc j'étais en Belgique, donc à l'âge de 13 ans, quand j'ai eu 13 ans, la communauté s'est implantée à Tichâteau, hein, ça a été là, et dans l'été qui a suivi, donc quand j'avais, je pense, 14 ans, ou 15 ans, je ne sais plus, ou 2 ans après, je ne sais plus, il y a eu une récollection qui a été organisée, avec le père Daniel Lacouture, parce qu'il y en a qui l'ont connu, qui était particulièrement axé sur la Sainte Vierge et qui travaillait à l'époque sur la médiation mariale. Donc c'est Marie médiatrice de toute grâce. Vous savez que Tichâteau est sous le vocable de Marie médiatrice de toute grâce. Donc c'est un peu pour ça. Donc il l'avait appelée pour prêcher en une petite récollection. Et donc, j'avais été à cette récollection et je me souviens plus ce qu'il a dit exactement, mais je me souviens de ce que j'ai vécu hein, là-bas. Et il y a quelque chose qui m'a été donné. Je suis sortie de là, donc j'avais 14-15 ans, je suis sortie de là avec la décision de prier la consécration à Marie tous les jours. Bien sûr, il en avait parlé, hein. J'ai commencé effectivement à prier la consécration de la Sainte Vierge de Louis-Marie de Montfort, donc à ce moment-là, tous les jours. Mais ça m'a pas quitté, mais ça ne m'a, enfin, j'avais pas trop l'habitude de prier le chapelet, hein, donc ça ne m'a pas trop, j'ai pas été plus loin que ça. C'est juste que, en fait, la prière du chapelet en soi, ça ne me dérange pas, c'est pas ça qui me dérangeait, mais c'était le fait de réciter des prières qui ne m'allait pas. Moi, je venais de faire une rencontre l'année d'avant avec le Jésus vivant. Et donc, pour moi, la prière, c'était une relation à Dieu, mais ce n'était pas réciter des prières. Je ne voyais pas le lien entre vraiment prier et réciter des prières. Donc tout ce qui était récitation de prières, je ne faisais pas. Donc, je ne faisais pas le chapelet, c'est quelque chose qui me... voilà. Mais par contre, la consécration à Marie, c'était une attitude de prière pour moi. Donc ça marchait très bien. Et donc voilà, la Sainte Vierge, en fait, quelque part, c'est servi de ce moyen-là. Puis petit à petit, j'ai réussi à dire le chapelet, petit à petit, enfin, il y a beaucoup de choses. À partir de là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mis en place, progressivement, tout doucement, comme la Sainte Vierge sait faire, toujours en douceur, sans violence, sans grosse révélation, sans forcing, sans... Tout d'un coup, voilà. Donc, petit à petit, les choses se sont ajustées, ou en tout cas, il y a des choses qui se sont ajoutées dans ma relation à la Sainte Vierge. Mais ce que je voulais souligner, c'était que c'est vraiment... c'est la grâce de la communauté qui m'a été... C'est par la grâce de la communauté, et donc la consécration, concrètement la consécration à Marie, que je suis rentrée dans cette relation avec la Sainte Vierge. C'est vraiment, la communauté a vraiment été le vecteur, et je pense que c'est justement à cause de ce qu'elle porte par rapport à la Sainte Vierge. C'est pas anodin, c'est pas juste parce que c'est moi. D'ailleurs, je me suis rendu compte, même tout simplement à l'Institut catholique, les frères qui font des travaux de maîtrise et tout ça, c'est très souvent autour de la Sainte Vierge. Et quand je vois les frères que j'ai en cours, parce que je donne cours aussi de mariologie à l'Université, les frères que j'ai en cours, quand ils me font l'examen, d'abord, ce sont en général c'est des bons examens, et puis je les vois, ils sont vraiment animés de quelque chose. Il y a quelque chose à la commune, on porte quelque chose à la communauté par rapport à cet esprit marial, enfin, je ne sais pas comment dire, qui bien sûr peut se prendre des formes diverses, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, c'est pour ça que justement, ça va être un petit peu mon premier point. Par rapport à, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la Sainte Vierge dans la communauté? Parce que je suppose que vous êtes au courant, mais les premiers communautaires n'étaient pas des catholiques, ils étaient des protestants. Ah oui, au cas où on ne le saurait pas. Hein. Donc, nos racines, ça vient quand même de ça. Hein. Il faut toujours bien l'avoir en tête. Et donc, je voudrais un petit peu retracer un petit point, au moins une étape par rapport à cet apprivoisement, en fait, de Marie. Cette approche, c'est Marie qui a apprivoisé petit à petit Éphraïm et la communauté, hein. C'est Marie qui s'est approchée tout doucement à travers avec son fils bien sûr vers Éphraïm pour voilà lui mais tout doucement. Donc je vais juste commencer par relire l'expérience d'Éphraïm. Je ne sais pas si vous la connaissez par cœur ou pas. Non, hein. Donc je vais en profiter. Donc c'est bien sûr là dedans. Vous l'avez probablement lu, hein, mais peut-être qu'il y a très longtemps. Et voilà, peut-être cet aspect ne vous a pas. Ouais. Bah ça, c'est, comment dire, ça fait partie des archives communautaires, donc c'est sûr que... Alors, donc c'est bien sûr le chapitre sur, qui est intitulé « Voici ta mère ». Alors, je vous lis quelques extraits, mais c'est juste pour, voilà, pour vous remettre dans l'historique de ce qu'on a reçu. Alors, donc c'était un moment où ils étaient en vacances avec plusieurs couples, voilà, c'était très... juste après le mariage de Jean-Claude et Martine, je pense. Donc, ils étaient avec plusieurs amis, donc, dont, bien sûr, Jean-Claude et Martine, mais ce n'était pas forcément la communauté, c'était les amis. Les amis, les premiers amis. C'était en général tous des protestants. Alors... C'est dans cette période où le catholicisme ne m'attirait pas le moins du monde, c'est bien sûr Éphraïm qui parle, que je reçus une lumière inaltérable. Je m'éveillai dans la lumière du petit matin et ressentis le calme de la maison de vacances. Hein. Nous dormions tous dans une grande pièce divisée par des paravents, parce que c'était des couples. Et soudain, la vision, le songe, je ne sais pas, et ça n'a pas d'importance. Le Seigneur debout et à sa gauche la Vierge. Je ne la regardais pas, quelque chose en moi s'y refusait. Le Seigneur que je distinguais parfaitement ne disait rien. Alors il bougea, son bras s'éleva, je le suivais des yeux. Puis sa main se tourna vers la Sainte Vierge. Il dit alors, c'est ma mère. Ayant suivi le mouvement de la main, je regardai la Vierge et reçus alors une effusion de tendresse. Je me sentis partir dans un sommeil profond. Je ne savais pas si c'était songe ou... Le lendemain, cette douceur accompagna mon réveil, tendresse mêlée d'un je ne sais quoi de fort et de maternel. Une présence qui n'allait pas me quitter et qui m'embarrassait. Selon ma sainte théologie, entre guillemets, une telle expérience ne pouvait venir que du démon. Mon raisonnement était, je crois, paralysé par des réflexes acquis, car en dernière analyse, le contenu de la vision était tout à fait scripturaire. Ne rappelle-t-elle pas la parole à Jean, « Fils, voici ta mère ». Je passe un peu plus loin. Alors, pourtant cette présence, avec toutes les réticences et tout ça, pourtant cette présence que je qualifierais de féminine ne me quittait plus. Or, elle ne se faisait ni pesante ni insistante. Elle était là, c'est tout. Et les mois passèrent. Je voulus en avoir le cœur net, puisque ma réfutation spirituelle devenait caduque avec le temps et avec cette expérience, du coup. Comme le parfum d'une fleur posée discrètement dans une pièce, ainsi Marie emplissait ma vie spirituelle. Je me surprenais à nuancer davantage mes positions et mes relations. Je me décidais à poser enfin la question à Dieu lui-même dans une prière intense. Il m'éclaira par les Écritures, c'était la moindre des choses. Je passe. Je passe. Hein. Alors, il fallut opérer une sérieuse conversion de l'intelligence, descendre de ma tête à mon cœur. Et je finis un dernier paragraphe. À un moment donné, donc, il passe à l'étape d'arriver à prier Marie. Je priais donc Marie comme on prie un ami d'intercéder pour nous. Je ne pouvais encore la louer. Tant ce réflexe de peur de léser Dieu était inscrit en moi. L'Écriture nous y invite pourtant. Toutes les générations te diront bienheureuse, enfin me diront bienheureuse. J'aurais dû écouter Luther qui, dans son commentaire du Magnificat, a écrit des choses admirables. Marie ne veut pas qu'on fasse d'elle une idole. Si nous invoquons Marie, c'est afin que Dieu, par égard pour elle, fasse et donne ce que nous demandons. Voilà. Quelques petits extraits. Donc, pour vous dire qu'il y a eu une intervention vraiment très particulière, très singulière de Marie sur la communauté. Et bon, après, on sait bien combien Ephraïm a approfondi hein, cette relation, le Seigneur, la Sainte Vierge aussi, l'ont vraiment éclairé. Il a écrit beaucoup de livres par rapport à Marie qui sont des très beaux, très belles méditations sur cette relation à Marie, notamment. Et puis, on est arrivé à la communion Marie-Reine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont développées par rapport à l'esprit marien dans la communauté. Et on voit bien que c'est vraiment une intervention particulière. Puisque, bien sûr, on avait affaire à des protestants au départ. Et c'est par, justement, la consécration à Marie que nous disons en communauté chaque matin, donc tous les jours, que je pense, moi, enfin, ça c'est mon avis, ça s'est, comment dire, cristallisé, hein, ça s'est formalisé ou en tout cas expérimenté dans la forme. Ça s'est expérimenté communautairement dans la forme par cette prière, cette consécration à Marie tous les jours. Après, il y a eu d'autres formes. Bien sûr, le chant à Marie à la fin de chaque messe, le chant à Marie dans les offices, le chapelet, mais le chapelet n'est pas forcément institutionnalisé, mais enfin, c'est une prière qu'on essaye aussi de mettre en valeur comme on peut, hein, à travers nos occupations, diverses selon les maisons et tout ça, etc. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a vraiment, comment dire, une ambiance mariale dans le vécu communautaire. Vraiment une ombre, je qualifierais ça, en fait, de cette expérience qu'Ephraïm a vécue, cette présence de Marie, très discrète, mais vraiment là, et à laquelle nous répondons d'une manière ou d'une autre, mais il y a quelque chose qui est, c'est pas simplement on répond à quelque chose d'externe, il y a quelque chose que nous vivons en tant que, de ce que nous avons reçu à la communauté. Enfin, moi, je le vois vraiment beaucoup, rien que dans l'Institut catholique, ça m'a frappée. Le nombre de frères qui approfondissent le mystère de Marie, alors qu'il y a 36 000 facettes du mystère de Dieu à approfondir. 36 000, et ben, c'est ce mystère-là que, avec, de manière privilégiée, on a dans le cœur d'approfondir quand ça nous est donné. Alors, du coup, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est justement cette consécration. Parce que de toute façon, il faut qu'on choisisse un petit peu un thème. Hein. Vous la connaissez tous par cœur, hein, je suppose, non ? Tout le monde la connaît pas. Bon, je la redis juste une fois. Alors, donc, c'est une consécration qui a été faite par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et qui a été faite dans un souci pastoral pour lui. C'est-à-dire que c'était... dans un souci de faire entrer les chrétiens dans cette dimension filiale avec Marie, hein, pour mieux accueillir Jésus, pour mieux vivre la relation en Dieu, pour mieux vivre en tant que chrétien et surtout mieux recevoir l'Eucharistie. Hein, c'est vraiment le but de cette pédagogie de sainteté. Donc, c'est comme ça que le Père Étienne parle de la pédagogie de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, une pédagogie de sainteté. C'est comme ça qu'a présenté Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc, c'est vraiment une prière pour les chrétiens, pour le chrétien lambda, hein, mais qui veut vraiment vivre sa consécration baptismale. Alors, voilà, celle-ci. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant en entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception. Selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Alors, on ne va pas tout analyser, mais voilà les deux ou trois lignes que je voulais, que j'ai à cœur de souligner. C'est la première chose, c'est... Je te choisis pour ma mère et ma reine. Je te choisis pour ma mère et ma reine. Sainte Thérèse de Lisieux, elle, face à tout ce qu'on pouvait dire, mettre Marie sur le piédestal avec tous ses privilèges, comme quoi c'était vraiment, elle était, mais devenait complètement inaccessible au peuple chrétien. C'était un peu, son époque, c'était un peu comme ça. Elle disait, mais c'est pas possible. Marie, elle est plus mère que reine. Marie est plus mère que reine. elle avait vraiment compris, en fait. Elle avait compris ce que c'était. Et en fait, on le retrouve ici dans cette consécration. On ne sait pas trop si Thérèse de Lisieux l'avait déjà lu ou pas. On ne sait pas trop parce que les écrits de Louis Grignon de Montfort ont été retrouvés après la mort de Sainte Thérèse. Ils ont été enfuis, mis presque à l'index. Enfin bon, il n'a pas du tout été compris de son vivant. Hein. Pas du tout. Hein. Donc je ne sais pas trop si elle l'avait vu ou pas, mais la spiritualité mariale de Thérèse de Lisieux est extrêmement proche de celle de Louis-Marie Grignon de Montfort. En particulier par cette petite phrase, hein, elle est plus mère que reine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est surtout notre mère. Bien sûr, c'est la reine des cieux, c'est la reine des gens, c'est la reine de tout ce qu'on veut. C'est la reine à côté du roi, évidemment. Hein. Mais c'est d'abord notre mère. C'est d'abord une relation filiale qu'on est appelé à vivre avec elle. Une relation filiale spirituelle qu'on est appelé à vivre avec elle pour vivre une authentique vie de baptisé, une authentique vie de chrétien, une authentique vie de foi. Et alors, la deuxième chose, point que je voudrais souligner, c'est la consécration, hein, je te livre et consacre en toute soumission et amour, hein, vraiment par amour, hein, amour filial. Donc, je te consacre mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions. On voit qu'il y a vraiment une remise. C'est une remise totale entre les mains de Marie de tout ce qu'on est. Hein. Mon cœur, mon corps, mon âme, mon cœur, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions. Même se laisser, comment dire, dépouiller de la valeur même de nos bonnes actions. Pourquoi? Parce que si on remet la valeur de nos bonnes actions à Marie, elle va les rendre comme la valeur, comme si c'était une valeur de sa bonne action à elle. Voyez, ça veut dire libérer de tout ce qui est parfois très très impur dans nos bonnes actions. Une recherche un petit peu de nous-mêmes, peut-être un orgueil, une recherche d'avoir quelque chose en retour. Il n'y a jamais quelque chose. Parfois c'est très inconscient. On pense qu'on le fait vraiment en toute bonne foi, mais souvent il y a des choses cachées. Hein, qui entache en fait la valeur de l'action bonne que nous faisons. Et c'est normal, hein, je veux dire, on est tous à la même enseigne là-dessus. Et justement, les remettre dans les mains de Marie, ça va purifier, si vous voulez, la bonne action que nous avons faite. Et elle va du coup l'offrir comme elle l'aurait faite à Jésus. Vous comprenez? C'est ça que veut dire... c'est ça que veut dire oui Louis-Marie Grignon de Montfort quand il compose cette prière. Donc c'est vraiment une manière de se remettre totalement dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on a, que ce soit les biens même extérieurs, parce qu'on peut aussi consacrer notre travail, tout ça, on peut le consacrer à la Sainte Vierge. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire et que voilà, non. Ça veut dire qu'on va, on va faire de toutes nos actions quelque chose qui va qui va faire plaisir à la Sainte Vierge. On va rechercher ce qui ferait plaisir à la Sainte Vierge. Du coup, ce qui fait plaisir à Jésus finalement. Hein. Même si on n'y pense pas forcément toujours consciemment, mais le fait d'y revenir souvent et chaque fois quand on y repense, de se remettre dans cet état d'esprit-là, mais finalement, ça nous fait demeurer dans cette présence de la Sainte Vierge, cette présence de notre Mère. Voilà, donc ça, c'est un peu pour la consécration. J'ai combien de temps encore? J'ai encore une dizaine de minutes, c'est ça? Ok. Ok. Donc, alors, ce que je voulais terminer, donc après ce deuxième point sur la consécration, un petit troisième point sur les fondements de cette remise de soi à la Vierge Marie, les fondements bibliques, les fondements magistériels, les fondements chrétiens, catholiques. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut d'abord se remettre à Marie, comme ça, et pourquoi et de quelle manière? Et pour ça, on va bien sûr interroger d'abord l'écriture, les fondements scripturaires de cette dévotion d'une certaine que nous vivons à la Vierge Marie. C'est très important dans notre dialogue avec, dans nos relations, si on peut rencontrer parfois les amis protestants et tout ça, c'est très important d'être très au clair par rapport à ces fondements, cette justification de la dévotion mariale. Alors, on va surtout partir un petit peu, en fonction aussi de l'expérience d'Éphraïm, qui s'est rendu compte, qui a reçu Jésus dans cette vision, qui lui a dit « c'est ma mère ». Il n'a pas dit « voici ta mère ». Vous voyez comme Jésus est délicat et très, pas violent. Il ne va pas forcer quand il voit qu'il y a, il s'engouffre dans une petite faille qu'on lui ouvre, il s'engouffre dans ce qu'on lui donne. Il ne va pas prendre ce qu'on ne lui donne pas. Et donc, il dit pas « voici ta mère », pourtant ça aurait été scripturaire. Il dit « c'est ma mère ». Donc, il n'oblige pas quelque part. Il n'oblige pas Éphraïm à prendre Marie. Il la montre et il dit « c'est ma mère », en sachant très bien qu'en tout, protestant qu'il est et pétri des Écritures, parce que c'était un pasteur, donc évidemment, il a fait des études et tout ça, il savait très bien qu'il allait faire le lien avec l'Écriture. Mais il le laisse faire son chemin. Donc, on va prendre ce passage. D'accord ? Alors, ce passage, je ne vais pas vous le lire. En plus, là, je ne l'ai pas pris en français, je l'ai pris en grec. Donc, je ne vais pas vous le lire. Mais vous connaissez, bien sûr, ce passage de l'Évangile selon Saint Jean. Chapitre 19, versets 25 à 27. Chapitre 19, versets 25 à 27. Donc, Jésus est sur la croix. Autour de lui, près de lui, se tenait sa mère, Marie, femme de Cléopas, l'autre Marie, enfin, je ne sais plus exactement exactement qui. Marie, donc, femme de Cléopas, et voilà, la sœur de sa mère. Donc, il y a juste, l'évangéliste dit, auprès de la croix se trouve donc la mère, sa mère. La sœur de sa mère et Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Voilà les personnages qui sont décrits au pied de la croix. C'est plein de Marie, exactement. Et ça c'est entre ce qu'on appelle en termes de narratif, quand on étudie un petit peu sur le plan narratif comment est construit un texte, ça s'appelle une situation, une circonstance, si vous voulez, une situation initiale, la circonstance dans laquelle va se jouer les paroles qui vont arriver. Circonstance, donc on a plusieurs maris. Vous remarquez que Saint Jean, enfin, ou le disciple que Jésus aimait, n'est pas cité. Alors, verset suivant. Jésus donc voyant la mère, je lis littéralement en grec, voyant la mère et qui se tient près d'elle, le disciple qu'il aimait. Là apparaît le disciple. Il n'est pas cité, il l'est vu parce qu'il voit sa mère. Jésus dit à la mère, il ne s'adresse pas aux disciples, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, il se tourne aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris, en général on dit chez lui. Alors, eis taïdia, c'est dans ce qui lui est propre. Alors, communément, ce qui est propre, ça peut aussi vouloir dire la maison de quelqu'un ou son foyer, ça peut aussi vouloir dire de manière commune. Mais ça veut surtout dire ce qui est propre à quelqu'un. Donc, on peut traduire ça, on peut l'interpréter comme un petit peu ce qui est propre à ce disciple que Jésus aimait. Or, qui est ce disciple que Jésus aimait? On ne sait pas qui c'est. La tradition dit que c'est Saint Jean, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'évangéliste ne dit pas, il dit, ce qui est propre à ce disciple, c'est le fait que Jésus l'aime, qu'il est aimé de Jésus. D'accord? Donc, le fait que Jésus, enfin, c'est l'identification de ce disciple, l'identité, la personne de ce disciple, comment dire, existe en fonction du fait qu'il est aimé de Jésus. Il existe dans la relation avec Jésus. Donc, ce disciple-là, qu'est-ce qui lui est propre? C'est sa relation à Jésus. Donc, il va recevoir Marie dans sa relation à Jésus, dans ce qui est le plus intime. Dans sa relation, finalement, de foi, dans sa foi. Parce que la foi, chez Saint Jean, la foi, c'est ce qui fait adhérer à la révélation du Maître et donc ce qui fait être en lien avec la source de la vie éternelle que le Maître est venu apporter. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en surabondance. Donc, être, avoir la foi, c'est être, comment dire, connecté, pour parler... le langage moderne, connecté à la source. Recevoir et l'intégrer et donc être en communion hein, avec la vérité qui est Jésus. Et donc, c'est pour ça que au moment de la scène, ce disciple, il était contre le sein de Jésus. Il n'était pas, il était près de Jésus, on dit en français, on dit près de Jésus, mais en fait, il est tourné vers le sein de Jésus, dans, littéralement parlant. Parce que c'était celui qui était le plus proche hein, du maître. Donc, et justement, il n'est pas nommé par son nom pour ne pas cibler ça sur une personne en particulier, mais pour qu'on puisse chacun s'y retrouver. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai Saint Jean, enfin, on va dire Saint Jean parce que communément... la tradition l'a nommé comme ça et c'est plus simple. Hein. Saint Jean reçoit Marie dans sa relation, ce qui est le plus intime avec le Seigneur. Et c'est ce que finalement ce que Jésus lui demande. Hein. Jésus a dit, voici ta mère. Et la suite, c'est bien de voir juste la suite. Après cela, juste le verset qui suit, après cela, voyant que déjà tout était accompli, déjà, tout est accompli. Pour que l'écriture s'accomplisse totalement, il dit « j'ai soif ». On voit très très bien que cette petite interjection, cette petite conjonction-là, après cela ou expression après cela, c'est évident que ça renvoie au niveau littéral, au niveau littéraire, au niveau narratif, ça renvoie à ce qui vient de se passer juste avant. Qu'est-ce qui vient de se passer juste avant? C'est le disciple qui l'apprend chez elle. Donc, une fois que le disciple l'apprend chez elle, chez lui, bien sûr, une fois que le disciple l'apprend dans son intimité, qu'il l'accueille, qu'il accepte ce don, Jésus voit que tout est accompli. Donc, ça veut dire que l'accomplissement de l'œuvre du Fils, c'est vraiment le moment crucial, c'est le cas de le dire, où s'accomplit en plénitude, si vous voulez, l'œuvre de rédemption du Fils. Cet accomplissement, dans cet accomplissement, il y a la réception du don de Marie comme sa mère. Vous voyez? C'est une parole testamentaire. C'est aussi, je ne vais pas vous faire tous les détails, mais c'est une parole testamentaire. Donc la dernière parole de Jésus à aux disciples, donc à tout disciple finalement, sa dernière parole sur la croix, qui est une parole testamentaire, c'est voici ta mère et reçois-la. Il attend que cette parole prenne corps dans le disciple pour voir que tout est accompli. Vous comprenez? C'est très très fort, très très important, très très fort cette, ce texte. Et d'ailleurs, justement, les protestants sont très embarrassés. Avec, alors, ils l'interprètent de manière très minimaliste en disant qu'il fallait régler le problème de la maman et tout ça. Mais en même temps, ils disent que Jésus avait aussi des frères. C'est bizarre. Tiens, en même temps, ils disent que Jésus avait des frères de sang. Enfin, pas tous, hein, pas tous les protestants, mais un certain nombre. Et après, ils disent que en fait, il fallait régler l'histoire de, il fallait régler la mère. Donc voilà, il l'a confié aux disciples parce qu'il fallait que sa mère puisse être, ne pouvait pas rester toute seule comme femme toute seule dans le, dans à l'époque. Certes, certes, mais on ne confie pas une mère à quelqu'un d'autre de la famille si elle a d'autres frères. Vous voyez, donc il y a des incohérences dans, les, dans l'interprétation protestante de la Bible, et du coup ils sont embarrassés avec, avec ce texte, parce que évidemment quand, quand vous décortiquez ça, quand vous regardez au niveau, je dis mais c'est incroyable, dans l'accomplissement même de l'œuvre de la rédemption fait partie le don de la mère aux disciples et l'accueil de ce don, pas seulement le don et puis faites ce que vous voulez, l'accueil aussi. Vous voyez, c'est vraiment, on peut, il y a beaucoup, il y a d'autres textes aussi où on peut, on, où le même thème se recoupe. Hein. On voit très bien, en général, l'objection qu'il n'y a pas grand-chose qui est dit sur Marie dans l'Évangile, et donc pourquoi en faire tout un, toute une mariologie, toute une dévotion et tout ça. En fait, ce n'est pas les paroles qui sont importantes, c'est la densité de la présence de Marie dans l'Écriture qui est importante. Et là, justement, avec tous les outils un peu modernes qu'on a eus dans, dans les... à partir à peu près de la première... des années 30, enfin bref, les années 1900, hein, donc on a commencé à utiliser des méthodes de, d'études littéraires des textes anciens pour la Bible. Et on a cru, et les mariologues au départ ont cru que ça allait pulvériser la mariologie. Parce qu'on allait trouver qu'il n'y avait rien, hein, qu'il n'y avait pas de fondement biblique, pas de fondement dans le donné révélé, que c'était uniquement l'Église catholique qui avait inventé tout ça, avec sa tradition et tout ça et tout. Et en fait, ça a fait le contraire. C'est-à-dire que on, par ces outils-là, on a pu approfondir et voir des significations beaucoup plus profondes. Et donc, qui ont fondé profondément, qui ont enraciné profondément la, la dévotion mariale, cette, comment dire, cette, cette, cet esprit, je ne sais pas comment exprimer ça, cette foi dans, dans, dans la Vierge Marie, qui parfois est un peu la foi du charbonnier hein, parmi, dans, parmi, parmi le peuple chrétien. Mais il y a une intuition de foi, c'est ça, l'intuition de foi qui est absolument fondée. Et si vous voulez, l'Église, la doctrine, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est fait parce que l'esprit occidental a besoin de réfléchir. Oui, certes, l'esprit occidental a effectivement besoin de réfléchir, en tout cas de manière un petit peu plus ou moins cartésienne. Les orthodoxes réfléchissent aussi, mais pas tout à fait, pas toujours de la même manière. Non. Et que donc, voilà, il fallait bien, voilà, il fallait bien réfléchir dessus. Et donc, il y a la doctrine qui s'est développée un peu comme ça. Non, pas du tout, du tout, du tout. Hein. En fait, la doctrine, c'est quoi? C'est ce qui est saisi dans la méditation et dans l'expérience de foi du peuple de Dieu tout entier. Hein, à partir de l'Écriture, donc ce qui est saisi dans l'Écriture par le peuple tout entier, dans la méditation, les homélies, tout ça, surtout, surtout dans la liturgie, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées de la doctrine dans, dans la liturgie. Et au fur et à mesure, après, on s'est posé les questions. Pourquoi est-ce que le peuple était si attaché à appeler Marie Mère de Dieu, par exemple, dès le IIIe siècle? Dès le IIIe siècle, le titre de Théotokos dans l'église d'Alexandrie était présent dans tout le peuple de Dieu. Et au IVe siècle, Alors, c'est Alexandre, Alexandre donc d'Alexandrie, qui était le patriarche à cette époque-là. Donc, le site cite ce titre. Hein, et en plus, quand c'est aussi cité dans une profession de foi, un symbole de foi, si vous voulez, de l'église d'Antioche, ce titre. Hein, l'église d'Antioche. Quand ils ont dû déposer Arius, hein, c'est-à-dire au troisième siècle, au quatrième siècle, ils ont dû déposer Arius, donc, qui était à Constantinople. Donc l'évêque de Constantinople a cité le symbole de foi, du symbole de foi d'Alexandrie, donc avec le titre de Théotokos. Vous savez que l'école théologique d'Alexandrie et l'école théologique d'Antioche avaient deux visions christologiques assez différentes. Enfin, différentes. Il y avait l'école d'Antioche qui insistait un petit peu plus sur la distinction des deux natures dans le Christ, et l'école d'Alexandrie qui insistait un peu plus sur l'union de ces deux natures. Alors, c'était une bonne christologie, l'un et l'autre, mais ils avaient un peu plus tendance à considérer ces deux aspects différents, que ce soit Antioche et Alexandrie. Or, le titre de Théotokos, de mère de Dieu, c'était lié à l'union des deux natures dans le Christ. C'est parce que Jésus, qui est homme et Dieu, c'est la personne divine, qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu. C'est pas parce que Marie a enfanté la divinité du Christ, c'est rien à voir. Hein. Et c'était bien sûr la question qui se posait. Et du coup, que ce soit dans l'église d'Antioche qu'on utilise ce titre-là, ça voulait dire qu'il y avait quand même une diffusion plus importante, pas seulement à Alexandrie, où ce titre était plus facile, hein, mais il y avait aussi une diffusion à Antioche. Mais ceci dit, c'est d'Antioche qui, bien sûr, est venu le questionnement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? Mais donc, ça veut dire que quoi? Ça part du peuple, ça part de la liturgie, ça part de l'invocation mariale, parce qu'en fait, le titre de mère de Dieu a été retrouvé dans la plus ancienne invocation mariale, qui est une invocation mariale, mais la plus ancienne invocation tout court, hein, donc en Égypte. Donc ça date de la fin du deuxième siècle, et ce titre est utilisé, hein, c'est sous le subtum presidium, hein, sous ta miséricorde nous cherchons refuge, sainte mère de Dieu, hein. Et donc, vous voyez, le peuple chrétien vit sa foi. Il le vit de l'intérieur avec une intuition profonde et de manière assez universelle. Et petit à petit, du coup, les pasteurs, ils commencent à réfléchir. Oui, mais attends, ça veut dire quoi, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses sont précisées. Et donc, la doctrine est au service de la vie de foi des fidèles. Hein, la doctrine, elle donne des bases pour que, en fait, le peuple de Dieu ne s'égare pas dans la foi. Mais ça part des questions que pose le peuple de Dieu à la doctrine. Et le magistère est garant de ça. Donc, là, tout ce qui concerne la Sainte Vierge, c'est très important de bien comprendre ça. C'est l'Immaculée Conception, par exemple, c'est né du fait que dans le peuple était répandu une fête de la conception de Marie. Or, une conception, on peut ne fêter quelque chose une chose qui est sainte. On ne fête pas quelque chose qui n'est pas saint. Donc, pourquoi il y a cette étendue-là? Et donc, ça veut dire que la conception est sainte. Et petit à petit, on a commencé à se poser les questions pour arriver, au bout d'un moment, au dogme de l'Immaculée Conception. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que, ce n'est pas écrit textuellement dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas fondé dans la Bible. Parce que c'est fondé dans l'esprit de la Bible. C'est fondé, par exemple, dans la Genèse, dans le protévangile, quand Dieu s'adresse au serpent en disant « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. » D'abord, il met une inimitié entre le serpent et la femme. Vous voyez ? Donc, s'il y a une inimitié, forcément, elle a jamais pu avoir de traces de péché. Sinon, elle n'aurait pas été en inimitié totale. Voyez ? Donc, évidemment, ce n'est pas dit texto. Mais si on comprend la profondeur même de la révélation, ça s'enracine dedans. C'est pas une preuve, mais ça s'enracine dans la cohérence même de toute la révélation. Voyez. Et donc, notre consécration à Marie, enfin, cette consécration à Marie qu'on a vraiment fait sienne, la consécration à Marie, elle fait corps avec la communauté, vraiment. C'est pas juste une dévotion perso comme ça. Bien sûr, c'est aussi une dévotion personnelle parce qu'on rentre chacun en tant que membre de la communauté, on rentre dans cette prière, hein, on la fait sienne. Mais c'est aussi en tant que communauté qu'on rentre dans cette prière. Et je pense que c'est vraiment lié à cette manifestation initiale, hein, spirituelle, hein, de Marie par rapport à Éphraïm, donc à travers Éphraïm, toute la communauté. C'est quelque chose qui, du coup, pour nous, n'est pas optionnel. On le vit vraiment. Mais de toute façon, ça nous fait bizarre. Enfin moi, même moi, quand on n'a pas les lots d'ensemble, par exemple, quand c'est une journée, un matin, on peut se reposer, on n'a pas les lots d'ensemble, ou alors qu'on a la messe et qu'on n'a pas les lots. Moi, quand je dis mon office de lode, forcément, toujours la consécration que je fais. Je peux pas, enfin, c'est quelque chose qui... Bon, alors, c'est vrai que moi, depuis l'âge de 15 ans, je la dis tous les jours, bien sûr. Mais il y a vraiment quelque chose ça fait vraiment corps avec la communauté. Et je crois que je vais finir avec ça. Jusqu'au point que ça a été écrit dans les statuts. Enfin, dans les statuts qui étaient jusqu'à 2011. Parce qu'en fait, j'ai cherché les statuts actuels, on l'a retiré. Je vais d'ailleurs demander pourquoi on l'a retiré. Je ne sais pas quand ça a été, si c'est l'Assemblée générale avant ou celle-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'y est plus. Sauf, il y a une trace dans le directoire général. Je vais vous la lire. C'est le directoire numéro 20, le directoire général numéro 20, qui parle de la prière mariale, justement. Il dit, notre appartenance à la Vierge Marie, tiens, d'où ça sort ça? Notre appartenance à la Vierge Marie se nourrit de la spiritualité mariale du Carmel et de celle de Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort. Je l'ai dit, hein, Thérèse de Lisieux, enfin, aussi Thérèse d'Avila, tout ça, mais Thérèse de Lisieux et Louis-Marie Grignon de Montfort. Elle se manifestera par les différentes expressions de piété mariale, en particulier par les hommages quotidiens et les pratiques recommandées par l'Église. Messe votive, hein. Tous les samedis on fait une messe votive à la Sainte Vierge, j'ai oublié de vous dire ça. Messe votive, récitation communautaire et personnelle du rosaire, quand c'est possible, Angélus, litanie, consécration, etc. Ils ont oublié de marquer les chants à Marie à la fin des messes. On récitera chaque jour à la fin des lots d'une formule de consécration à la Vierge Marie. Alors, ça peut être celle-là, il y a certaines maisons qui prononcent aussi celle de Maximilien Kolb, bon, il y a deux ou trois propositions, hein. Mais c'est vrai que celle de Louis-Marie Grignon de Montfort est particulièrement prisée, hein, privilégiée, hein, de manière générale, en tout cas c'est là. Donc, notre appartenance à la Sainte Vierge se nourrit de la spiritualité du Carmel. Cette appartenance, en fait, ça renvoie à ce qui était dit dans les statuts avant, jusqu'en 2011. La communauté appartient à la Sainte Vierge. Ça, c'est très important. Et je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé. À mon avis, c'est parce que c'est quelque chose de plus spirituel. Donc, c'est plutôt son lieu dans le livre de vie. Mais ce n'est pas dans le livre de vie non plus. Donc, peut-être qu'on n'a pas encore tout bien. Mais je vais signaler ça, Nagaderina. Ça, il faut mettre dans le livre de vie. Vous débrouillez, mais... Pop. Je vais lui relire ça. Hein. Je vais lui relire ça. C'était... Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager.
Merci beaucoup, Florence, hein, pour cet enseignement. Dense, très très dense. Donc je vous rappelle que vous allez pouvoir le retrouver et le méditer un petit peu donc, par le biais d'Internet. Je le ferai passer sur une clé pour ceux qui. Voilà. Peut-être que vous avez quelques questions.
Allez,
ça a eu aussi une influence sur la présence de la Vierge dans la communauté?
C'est un tout. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des interactions, bien sûr, tout à fait. Il y a eu un moment, quand on a découvert vraiment Medjugorje, il y a eu la communion Marie-Reine de la Paix, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Effectivement, on est, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, la communauté est aussi nourrie hein, de ce qui se passe à Medjugorje aussi, ça c'est sûr. Après, on ne se prononce pas, je veux dire, on fait que ce que l'Église permet de faire. Mais c'est sûr qu'on constate aussi, effectivement, tous les fruits et tout ça. Et oui, c'est sûr que cette spiritualité fait aussi partie de ce qu'on vit. Mais c'est pas premier. Ce qui est premier, c'est vraiment cette appartenance et cette consécration à la Vierge. Et donc, évidemment, tout ce qui concerne la Vierge, tous les endroits un peu mariales où on est, forcément, tout de suite, ça a un impact, tout de suite, ça a une résonance dans notre vie communautaire, dans la vie sur place et aussi dans la vie du corps communautaire. Qu'on soit présent à Lourdes, je veux dire, par exemple, à Tichateau, pourquoi est-ce que c'est Marie médiatrice de toute grâce la consécration de la maison? C'est parce qu'il y a un sanctuaire Marial à côté, on peut y aller à pied tranquillement, ça fait une sympathique demi-heure, trois quarts d'heure de marche, un sanctuaire de la médiatrice des grâces. Et donc il y a à Berzé, enfin il y a trois sanctuaires mariales en fait, un petit peu dans les parages de Tichateau, dont la médiatrice de grâces, sachant que ce titre de Marie médiatrice de toutes les grâces vient de la Belgique. Ça, c'est un peu ma thèse aussi, mais je ne vais pas vous en parler parce qu'on n'aurait pas fini. De la délivrance aussi. Vous voyez, il y a très, très, très... Ici, c'est notre monastère. C'est Notre-Dame des Sept Douleurs, à la base. Les dominicaines ont donné à un autre patron, c'est Sainte Catherine de Sienne, parce que plus dominicain. Mais finalement, elles ont gardé, bien sûr, le premier. L'église, c'est l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc, il y a toujours, enfin, ça montre la présence de manière concrète, de manière intérieure, de toutes les manières possibles. Il y a une présence vraiment comme cette expérience qu'a vécu Ephraim, et ça perdure dans la communauté. Il l'a reçu pour nous, enfin pour nous, oui, pour nous, parce qu'il est plus, il est plus communautaire entre guillemets maintenant, mais en tout cas, il l'a reçu pour nous. Hein. Et c'est un patrimoine, tout ce patrimoine-là, c'est plus qu'un patrimoine, c'est une expérience continuée, en fait. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui, François. Moi, je peux proposer le livre du père Daniel, La Couture. Je l'ai à la maison, je peux le prêter si quelqu'un veut le prêter. Je ne l'ai pas là sur Internet, mais je l'ai.
Il s'appelle Marie, médiatrice de toute grâce.
C'est Marie,
bah, non, voilà. Non, ça c'est les toutes premières années de la communauté, c'est l'histoire d'Ephraïm au moment de sa conversion entre guillemets, après il y a déjà les blessons blancs, là c'est la communauté je pense déjà, ici c'est vraiment encore tout avant même, par exemple là il y avait encore que des couples, il y avait pas Marie du désert, il y avait pas donc c'est vraiment les avant vraiment de commencer, enfin vraiment les tout premiers instants.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi si vous en avez plus, moi j'en ai une. Moi ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit, c'est qu'on a l'impression, peut-être que je me trompe, c'est que la sagesse populaire précède la doctrine, un peu comme Jean-Baptiste désigne le Christ comme agneau de Dieu. Ça m'a frappé par rapport à l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux confirmer ça? D'où vient cette sagesse populaire?
Eh bien, c'est le truc de la tradition, en fait. C'est l'histoire de la tradition, c'est-à-dire... Il faut voir ça depuis Abraham. Hein. C'est pas catholique en tant que tel. C'est l'alliance, c'est l'histoire de l'alliance. Dieu parle à son peuple. Donc on est dans un dialogue d'écoute, de réception, d'écoute Et après, bien sûr, de mise en pratique. Et quand la mise en pratique se fait, eh ben, il y a des questions qui se posent. Donc, on va voir le rabbin. On dit, mais comment est-ce que je fais pour respecter les commandements si je suis dans telle situation, etc. Alors, évidemment, donc ça, c'est vraiment typiquement la pratique juive, la foi juive. Et enfin, la foi juive, l'alliance, la première, l'alliance, le premier moment de l'alliance, si vous voulez. Et le deuxième moment, qui est aussi l'accomplissement avec le Christ, ben, c'est toujours la même chose, mais c'est l'accomplissement, si vous voulez. Et donc, on est encore dans cette tradition, on reçoit la parole, la révélation, on l'écoute, la foi vient de l'écoute, hein, on l'écoute, on la fait sienne, on la fait vivre dans notre vie, et puis on essaie de comprendre, parce que nous sommes humains, nous sommes dotés d'intelligence et de liberté. Et donc, si on reçoit quelque chose comme vrai, parce que ça nous a été dit par Dieu, cette parole, elle m'est dite par Dieu, donc Dieu ne peut pas se tromper, ne peut pas me tromper, c'est Dieu. Voilà, ça c'est l'acte de foi premier, et après, mais évidemment, ça va me poser des questions, parce que le mystère de Dieu, bonjour, pour le comprendre dans la tête, c'est pas possible. Ça dépasse notre intelligence, ça dépasse nos cadres rationnels. Ça ne les fait pas exploser, ça ne les annihile pas, mais ça les dépasse. Et donc, on a toujours à comprendre des choses. Et notre foi, pour être une foi qui va vraiment s'incarner profondément dans notre vie, doit aussi être nourrie de notre compréhension. Notre foi ne peut pas fonctionner seulement avec le cœur. Elle fonctionne à la base et profondément avec la motion, parce qu'on est c'est l'amour qui nous fait avancer. Mais l'amour, il a besoin de connaître qui on aime. C'est dans un couple, vous comprenez très bien ça aussi. On a besoin de se connaître pour s'aimer profondément. Et au plus on connaît l'autre en profondeur, au plus on l'aime. Et donc c'est ça. Et donc la doctrine aide ce mouvement-là de l'intelligence. Vous voyez ? C'est ça. Exactement. Marie est dans exactement cette même démarche. Elle a la foi qui est la même que nous dans sa constitution. C'est une constitution humaine. C'est-à-dire une foi qui, bien sûr, accueille pleinement et parfaitement, dans le cas de Marie, toute la révélation, le mystère de Dieu, l'amour de Dieu, tout ça, elle accueille pleinement. Mais elle a besoin de comprendre comment cela se fera-t-il. Pourquoi nous as-tu fait cela ? C'est les deux seules paroles de Marie, à part le Magnificat, évidemment. Hein, les deux seules paroles de Marie qui sont des paroles, justement, de lien entre la foi et la raison. C'est très, très juste ce que tu dis.
Mais en même temps, le Seigneur nous a dit qu'il nous enverrait l'Esprit Saint qui nous enseigne.
Exactement.
Moi, j'y crois beaucoup.
Mais l'Esprit Saint va éclairer ton intelligence pour que... Exactement. Mais c'est ça qu'on reconnaît dans la foi du peuple de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui parle à travers le peuple de Dieu. L'Esprit Saint nous montre quelque chose. Et si c'est fait de manière universelle dans des cultures différentes, ça veut dire que ce n'est pas une culturelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, même si ça peut prendre une couleur culturelle au niveau de la forme, je veux dire, il y a quelque chose de profondément vrai qui relève de la révélation. Et c'est pour ça que le pape Pie IX, de son autorité, hein, ça n'avait pas encore été d'ailleurs dogmatisé, hein, l'autorité, l'infaillibilité du pape comme ça, mais en tout cas, de son autorité, il a proclamé le dogme, donc, c'est-à-dire que c'est dans le fondé révélé. L'Immaculée Conception est dans le fondé révélé. Pourquoi ? En vue de sa maternité divine et toute la mission qu'elle va devoir. Il faut qu'elle soit totalement sainte et préservée du péché originel pour pouvoir accomplir la mission jusqu'au bout, qui est une mission non seulement jusqu'à la croix, mais aussi jusque dans la gloire. Vous voyez ? Avec sa mission se continue, avec la mission du Christ qui se continue, sur une autre modalité, bien sûr, parce que tout est accompli au moment de la croix. Hein, mais la modalité continue, de cette mission continue au ciel. Le Christ continue à être auprès du Père pour intercéder pour nous. Et donc, la mission de Marie qui est associée au Fils continue aussi jusque dans la gloire, toujours associée à son Fils.
Je reviens en mémoire que lors d'un pèlerinage à Lisieux, vous ne direz pas la même, je ne me rappelle plus,
Et une personne dans l'assemblée, la force l'évêque qui prêchait, et disait, mais pourquoi on lancerait pas une pétition pour que Sainte-Thérèse soit reconnue de docteur de l'Église. Et tout le monde a vraiment adhéré, ça a été applaudi. Et j'ai fait partie des gens qui ont distribué après les pétitions, quand on rentrait chacun chez nous. Quand même, elle a été reconnue docteur de l'Église. Enfin, je veux dire.
Faire pareil avec Louis-Marie Grignon-Montfort.
Il est décédé, toute la foule disait Santo Subito. Donc, c'était pas. Je veux dire, c'était aussi basé sur la raison.
Oui.
Quand on fréquentait un peu de près Jean-Paul II, même si on l'approchait, on suivait un peu tout ce qu'il faisait. Alors,
tout fait.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que. Et c'est bien de savoir que. Parce que des fois, il y a des prêtres qui. Tu ne portes pas bien si on chante Marie à la fin de la messe, là, on peut se dirige trop vers Marie.
Eh bien, vous voyez tout ça. Je vais revenir, je vais faire une dernière. Comment dire je vais passer par Cana pour te répondre, l'évangile de Cana. Vous voyez, et d'ailleurs, même Louis-Marie Jean de Montfort, par rapport à la consécration, tout ça, et la vraie dévotion, il a écrit. Le secret de Marie, qui est un peu le condensé de la vraie dévotion. Et le secret de Marie, c'est sa pédagogie pour les pauvres, c'est-à-dire enfin, les pauvres, les petits, les anonymes. C'est-à-dire, Marie est, par excellence, l'anonyme. La toute pauvre, c'est-à-dire celle qui sait qu'elle n'a rien d'elle, mais qu'elle dépend complètement de Dieu. Dans les joies comme dans les joies magnificat comme dans les difficultés le temple la perte de Jésus au temple et tout ça justement pour pouvoir accueillir Marie il faut se faire tout petit il faut être accepté de se faire un petit bébé un petit enfant parce que accueillir Marie c'est pas accueillir Marie comme une reine c'est accueillir Marie comme ma mère oui vous comprenez. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité de se faire petit enfant et donc de se mettre à l'école de Marie. Et ça, tout le monde... Là, si vous comprenez ça, vous comprenez tout. C'est pour ça que le peuple de Dieu qui voilà, où c'est Marie, ma mère et tout ça, bon, c'est sûr, parfois, il y a parfois un petit peu d'exubérance, etc. Mais fondamentalement, ils sont dans le vrai, ils sont dans le juste. Et justement à Cana, on va terminer par ça. Donc Marie tourne vers Jésus, les serviteurs, elle dit faites ce qu'il vous dira. Bon, voilà, je vais pas, c'est très très long, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Qui goûte le vin? Qui goûte le vin qui est changé en eau? Le maître du repas. Et qui croit? Les disciples. C'est pas le maître qui a goûté le vin qui croit. Pourtant, lui, il l'a goûté, le vin. C'est pas lui qui croit. C'est les disciples qui voient sa gloire et qui croient. Ça veut dire que, en fait, le mystère, ce mystère, et là, dans les noces de Cana, il y a le mystère justement de la médiation de Marie, hein, donc de sa médiation mariale. Parce qu'elle va provoquer la foi, et quand on provoque la foi, ça veut dire qu'on donne la vie. Surnaturel, hein, parce que la vie, quand on naît dans l'Église à la nouvelle vie, c'est la foi, c'est une proclamation de foi, hein, le baptême, hein, c'est ok. Donc la foi nous fait donc coller, hein, nous connecter à la vie qui est le Christ, hein, et donc on reçoit cette vie en abondance. Donc la foi, ça veut dire la vie surnaturelle. Donc si elle provoque la foi, ça veut dire qu'elle donne la vie, qu'elle donne la vie, si vous voulez. Donc, c'est une médiation qui est maternelle derrière. Eh bien, ce n'est reconnaissable que à celui qui croit. C'est sous le voile de la foi. Donc, sous le voile de ceux qui se reconnaissent, qui acceptent, qui accueillent Dieu, en fait, tel qu'il veut se donner. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'on veut bien accueillir Dieu, mais comme on pense qu'il est. Et c'est un peu le défaut, enfin le défaut, pas le défaut, je veux dire, la tristesse, si vous voulez, la tristesse des protestants, il faut les plaindre, il ne faut pas les rejeter. Il faut se dire, mais il faut prier le Saint-Esprit qu'il leur donne, qu'il les éclaire sur Marie. Hein? Parce qu'ils se mettent en dehors de ils se mettent d'une certaine manière un peu en dehors de la source. Donc c'est plus un malheur pour eux qu'autre chose. Mais pourquoi ? Et c'est le récit de la conversion d'Éphraïm sur ce point est très important. C'est vrai, petit à petit, il a dû, comment dire, descendre de cet orgueil de l'intelligence dans le cœur pour devenir, vouloir être petit et recevoir ce que Jésus lui-même voulait lui donner. Jésus veut donner à tout disciple, y compris les protestants et tout ce que vous, et qui vous voulez d'autre, sa mère, et il veut que tous l'accueillent. Et tant que ce ne sera pas authentifié par tout le monde, et ben voilà, on sera encore dans un accomplissement qui dure. Ça fait partie du mystère de Dieu. Le mystère de Marie fait partie intégralement du mystère du Christ, et donc de Dieu, forcément, hein, et de l'Église. L'Église en tant que corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église au sens plénier, hein, pas simplement nous les uns côté des autres, non, vraiment, l'Église dans le sens plénier, donc le corps mystique du Christ. D'où elle est mère de l'Église, hein, puisque mère de la tête, mère du corps. Ça qui est signifié à la croix, en fait. Donc, il y a vraiment un enjeu pour notre vie de foi de recevoir Marie comme notre mère. Il y a vraiment un enjeu. Après, ça va se préciser, se personnaliser selon chacun, parce qu'une mère est une mère d'une personne. Donc, une personne, elle est unique, donc elle va avoir une relation unique avec, j'ai oublié ton nom, Annick, voilà, avec Carmen, Marie-Carmen, avec Bernadette, voilà, etc. Donc, je ne vais pas vous dire comment ça se vit, ça je ne vais pas vous le dire, mais par contre, d'avoir ce désir de l'accueillir et de demander à Marie elle-même, voilà, qu'est-ce que c'est, Marie, être ton enfant, dis-moi. Et c'est la seule chose, avec les petits pas qu'on peut faire, que ce soit pour les uns dire le chapelet ou une dizaine, que ce soit pour les autres dire la consécration, ou tel ou tel petit pas qu'on peut faire, nous, pour montrer qu'on veut vraiment entrer dans cette dimension-là. Après, la Vierge Marie elle-même va vous montrer qu'est-ce que c'est que d'être en relation avec elle, en relation filiale. Voilà.
Ok, ben super, hein, merci beaucoup.